Voilà dans une épître, une lettre écrite par Jean. Jean, un disciple du Seigneur Jésus, qui a également écrit l'Évangile. Disciple qui se nomme le disciple que Jésus aimait, qui a donc connu pour lui-même ce qu'est l'amour du Seigneur Jésus pour lui-même, et qui, vers la fin de sa vie, écrit une lettre à des chrétiens qu'il appelle « mes enfants ». Il parle, comme on a vu aujourd'hui, « bien-aimés », des personnes qu'il aime et qui sont un peu en danger. Déjà, des doctrines fausses commencent à courir. Alors, c'est pas nouveau, les doctrines qui touchent à la personne du Seigneur Jésus. On en a aujourd'hui, il y en avait déjà, ça commençait. Et donc, on peut dire Jean qui est âgé, un peu comme un grand-papa qui est bientôt à la fin de sa vie et qui pense à tous ces croyants pleins de vie qui aiment le Seigneur et qui risquent d'être influencés par des doctrines mauvaises. Alors il va leur écrire, c'est un peu la raison de sa lettre, mais pas que pour ça. Il veut quelque chose pour ce qu'il appelle ses enfants. Il veut que ses enfants connaissent la joie, qu'il appelle la joie accomplie, la joie parfaite. C'est possible de connaître, comme croyant, comme chrétien, une joie profonde, même si les circonstances de la vie sont difficiles. Et l'apôtre Jean va nous donner quelques indications comment connaître la joie accomplie, complète. Et puis il veut aussi rassurer, parce que s'il y a des doctrines qui sont enseignées, qui sont données, ça trouble, ça doute, ça nous fait douter, on ne sait pas trop, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu, est-ce que... Alors, il y a un verset peut-être important dans cette lettre, à la fin, dans le dernier chapitre, qui nous dit pourquoi il a écrit. Il a écrit ces choses, ces cinq chapitres, dont celui que nous avons lu, au verset 13. Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc voilà des personnes qui ont la vie de Dieu et qui pourraient en douter. Alors il va, en quelque sorte, donner des preuves. Et les donner, on peut dire, par écrit, et chacun de nous, on va pouvoir tester, voir. Alors est-ce que j'ai vraiment la vie de Dieu? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Et ces différents tests, eh bien, si nous les passons, alors c'est confirmation, nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que quand le Seigneur Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu, et puis il n'était pas comme les autres. Et qu'est-ce qu'on remarquait chez lui? Eh bien, c'était surprenant, dans ses messages, dans sa manière d'être, il montrait quelqu'un d'invisible. Et ce quelqu'un d'invisible peut dire le Seigneur Jésus à Philippe, qui voulait connaître, voir le Père, montre-nous le Père et nous croirons en lui. Tu m'as vu, peut dire ce verset qui est important, qui va faire le lien avec notre lettre, ici, dans le chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Quand Philippe pose cette question, donc Jean 14, au verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Mais ça existait, ça a été pendant quelques années, et Seigneur Jésus est parti. Alors comment est-ce qu'on peut voir Dieu, le Père, sur la terre? Eh bien justement, cette lettre qui nous est écrite par Jean nous dit ce qui a été vrai en lui, dans le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que dans sa vie, Il vous a montré qui est Dieu, l'invisible, le Père. Eh bien, ce qui est vrai en lui est maintenant vrai en vous. Vous, les enfants de Dieu, eh bien, c'est vous, par votre vie, pas seulement par votre message, mais par votre manière de vivre, vous allez montrer sur la terre qui est Dieu. Alors on comprend bien l'importance de qui est ce Dieu. Et Jean va nous dire, Dieu est lumière, Dieu est amour. Alors qu'est-ce que nous avons à montrer pour que Dieu soit reconnu sur cette terre qui ne le connaît pas?
Il y a dans cette portion de chapitre que nous avons lu, au verset 12, au début du verset 12, une expression qu'on retrouve déjà dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, « Personne ne vit jamais Dieu ». Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, elle est suivie de ceci, mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et ça, par rapport à ce que vient de dire Philippe, c'est une clé, quelque chose d'essentiel pour nous cet après-midi. Dieu est présenté dans l'épître à dans la première épître à Timothée par Paul comme celui qui est invisible, celui qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Et le Seigneur est venu, il a révélé le Père, il l'a fait connaître. Comme vient de dire Philippe, il est parti maintenant, il est élevé dans la gloire. Nous l'attendons, mais nous l'attendons pour nous prendre avec lui. Maintenant, nous avons une responsabilité. Souvenons-nous que de voir le Seigneur Jésus, de l'entendre, cela permettait de connaître le Père, de connaître Dieu. Et réalisons que le Seigneur nous invite à le suivre, à l'imiter, c'est-à-dire que nous devrions être, en suivant le Seigneur, tel que le Père aussi soit connu et que Dieu soit connu. Essayons de retenir cette clé-là durant notre méditation pour en profiter au maximum et pour que dans nos vies individuelles de famille et d'assemblée, les choses changent encore, s'améliorent pour certains, changent radicalement peut-être pour d'autres.
On est beaucoup plus habitué à étudier ou à lire les épîtres de Paul, de telle sorte que parfois entre nous, quand on parle de l'apôtre, ça ne peut être que l'apôtre Paul. Et parfois même on peut se tromper, on est en train de parler du prophète Élie et on va dire l'apôtre. Et c'est souvent en rapport avec les épîtres de Paul, on est beaucoup plus habitué avec ce qu'il nous enseigne. Et pourtant, je me souviens avoir lu un livre une fois qui m'avait surpris, sur le fait d'étudier, de lire la parole de Dieu. Et celui, l'auteur de ce livre, il parlait du fait de guider quelqu'un pour quelqu'un qui découvre la parole de Dieu. Et il disait, voilà, commencez par étudier une épître, par lire une épître, et vous découvrirez qui est le Seigneur Jésus. Et en particulier, il citait un évangile. Et il citait l'évangile de Jean à propos de cet évangile, à cause du verset que tu as cité tout à l'heure, « Personne ne vit jamais Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Et puis aussi, à propos d'un autre passage de l'évangile selon Jean, quand au chapitre 20 il est écrit, « Toutes choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, Jean 20, verset 31, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. » Première étape, croire que Jésus est le Fils de Dieu et avoir la vie par son nom. Et puis dans notre épître, Philippe nous a lu ce dernier passage de chapitre 5, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors, ce chrétien, ce frère qui donnait des conseils pour la lecture de la parole, il disait « Vous commencez par l'Évangile et après vous lisez les épîtres de Jean. Pourquoi ? Pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez dans son nom. Pour que votre foi soit affermie, assurée. Vraiment, vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et quand on lit ces épîtres de Jean en particulier, Jean s'adresse à une famille, à des gens qui ont la vie, qui sont de la même famille. On ne trouvera pas dans les écrits de Jean quelque chose, ou très peu, quelque chose qui touche l'Église. Ce n'est pas ce que Dieu lui a confié, il nous parle de la famille de Dieu. Et puis, une famille, quand on est l'enfant d'une famille, c'est qu'on a, on est l'enfant de ses parents, on a le même sang, la même vie. Eh bien, vous êtes des enfants de Dieu, vous avez le même sang, vous avez la même vie. C'est schématique ce que je dis, bien sûr. Et puis, quand on est dans la famille de Dieu, alors il y a les caractères de cette famille. D'abord, tout à l'heure, Philippe a un peu fait allusion au motif pour le fait que cette épître de Jean nous est écrite. Mais les premiers caractères de la famille, c'est, entre autres, c'est au verset 3, on est ensemble, on a une même harmonie, du chapitre 1er, où il est dit, nous vous annonçons la vie éternelle, et nous vous l'annonçons, verset 3, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous, et notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Donc une famille unie, qui a la communion avec le Père et qui a communion avec le Seigneur Jésus et de cela découle la communion entre chaque membre de la famille. Et la conséquence de cela, c'est ce que Philippe a lu tout à l'heure, c'est une joie complète. Quelle joie, quelle harmonie, connaître le Seigneur Jésus, avoir cette réelle communion avec notre Père, une vraie relation vécue. Une réelle communion, une relation profonde vécue avec le Seigneur Jésus, d'où découlent les relations entre les enfants de Dieu, entre nous, frères et sœurs. Quel bonheur, quelle joie. Et puis il y a des troubles qui peuvent se faire, des choses qui nous empêchent de jouir de cela, et ce qui nous empêche de jouir de cela, c'est le péché. Et dans le chapitre 1er, il est question du péché, et en particulier, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Alors, je confesse mon péché et ce péché est effacé. Pourquoi ? Parce que, c'est dit un peu avant, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais, l'apôtre Jean n'écrit pas simplement pour que nous nous satisfassions de cette situation de risque de péché. Il dit, je vous écris ces choses, chapitre 2, afin que vous ne péchiez pas. Pour que cette relation, cette vie, cette communion ne soit pas interrompue par le péché. Et la pensée de Dieu, c'est que nous ne péchions pas. Bien sûr que cela, nous péchons. Si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il est menteur. Mais la pensée de Dieu, c'est que nous ne péchions pas. Et puis, donc, Philippe a parlé des dangers qu'il y a, des fausses doctrines qui s'approchent. Alors, au chapitre 2, Jean dit au verset 26, « Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous égarent, pour vous avertir. » Et alors on a beaucoup de signes, beaucoup d'avertissements pour nous faire reconnaître le mal, le faux du juste, le mal de ce qui est juste, et pour nous amener à découvrir aussi alors qui est Dieu, quels sont les caractères de la famille de Dieu. Et parmi les choses qui nous amènent à découvrir, c'est que Dieu est amour. Et que cet amour dont Dieu nous aime a des conséquences dans nos vies. Et que cet amour dont Dieu nous aime produira des effets quant à notre vie les uns avec les autres, et puis aussi quant à notre liberté devant Dieu. Et quant à notre témoignage. Alors, une épître difficile parce qu'on n'est pas habitué. Je ne sais pas si vous avez ce problème, mais en tout cas, pour moi, c'est toujours difficile en reprenant les épîtres de Jean, parce qu'il a... Il nous dérange parfois. Faire un plan de l'épître de Jean, c'est pas du tout évident. Alors, le cartésien qui vit en chacun de nous, français, il a du mal, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que il n'est pas une question de raisonnement, c'est une question de vie. Et ce qu'il y a de formidable dans cette épître, mais c'est la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de faux fuyants. Et un des effets de cette de l'action de la parole de Dieu appliquée dans nos cœurs, en particulier dans ces épîtres, c'est de nous aider à vivre la vie de Dieu, à vivre cette relation avec le Seigneur Jésus. Et il y a alors des conséquences merveilleuses.
Oui, alors il paraît que c'est trop difficile de donner un plan. Donc j'aimerais simplement, pour la partie qui est devant nous cet après-midi, distinguer les différentes parties. Les versets 7 et 8, c'est une introduction pour nous dire pourquoi l'amour est important et il faut absolument se sentir concerné par cette question de l'amour, parce que Dieu lui-même est amour. Ensuite, il y a une partie qui est relative au passé. C'est les versets 9 et 10. Et la manifestation sublime de l'amour, c'est quand Dieu donne son Fils. Et là, l'essence de l'amour, c'est précisé clairement au verset 10. Ensuite, il y a les versets relatifs au présent, qui sont comme une conséquence. Si Dieu nous a aimés ainsi, ben, il faut que ça se voie dans notre vie, verset 11. Et la partie du présent va jusqu'au verset 16 pratiquement, enfin au moins jusqu'au 14, mais jusqu'au 16. Et nous voyons que c'est la manifestation de l'amour. Cette manifestation de l'amour n'est pas liée au fait de se dire tous les matins « je dois aimer », même si quelquefois il faut se le rappeler, mais c'est lié à la communion avec Dieu. C'est verset 12 « quand Dieu demeure en nous, son amour est consommé en nous, et nous, nous demeurons en lui. » Il y a l'aide de son esprit qui est donnée au verset 13, et puis le témoignage, la confession au verset 15. Tout cela, c'est très pratique, c'est notre vie, ça découle de la communion avec Christ. Et puis, à partir du verset 17, il est question de l'avenir. Devant nous, il y a le fait d'un jour se trouver devant Dieu. Est-ce que nous avons de l'assurance pour ce jour-là? C'est expliqué au verset 17 et au verset 19. L'amour parfait chasse la crainte. Et puis alors, la conclusion, c'est au verset 20-21. On attendait peut-être une conclusion qui soit très élevée. Elle est très pratique. Si on a compris l'amour dans le passé, si on l'a vécu dans le présent, si c'est une assurance pour l'avenir, eh bien, il y a des tests, tout simples, dont Philippe nous a parlé tout à l'heure. C'est, est-ce que nous avons de l'amour les uns pour les autres? Alors que Dieu nous donne de bien comprendre les leçons de ces versets pour qu'il en résulte cet amour.
Peut-être encore juste une chose, c'est que plusieurs fois, quand on lit cette lettre, on lit cette expression, si nous disons, Voilà, on prétend être. Alors, ma vie va démontrer si oui ou non ce que je dis est vrai. Une autre chose, c'est qu'on trouve à 12 reprises l'expression « nous savons » ou « vous savez ». Et il y a là des confirmations. Et on a besoin dans notre vie chrétienne d'avoir des confirmations. Alors aujourd'hui, et ce que nous dit donc cet apôtre, comment est-ce que on va pouvoir prouver qu'on est un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui va en être la preuve? Évidemment, la preuve, c'est par les fruits. C'est un arbre, on voit si c'est un pommier, ben par les pommes qu'il aura sur l'arbre. Alors, il y a deux choses importantes. La première, c'est un enfant de Dieu obéit. Quand Dieu parle, il écoute. Et il met en pratique ce que Dieu dit. Et on voit ça en particulier dans le paragraphe 3 à 6 du chapitre 2. La deuxième grande caractéristique de l'enfant de Dieu, il aime. Et ça va être notre sujet. Mais ce n'est pas la première fois que l'apôtre Jean parle de l'amour les uns pour les autres. On peut se dire, il répète. Mais en quelque sorte, chaque fois, il va apprendre quelque chose. La première fois qu'il parle d'amour, c'est donc dans le chapitre 2. Et au verset 7, du verset 7 au verset 11, Hein, il dit, bien aimé, je vous écris un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. C'est quoi ce commandement nouveau? Eh bien, on ne rentre pas dans le détail puisque notre sujet c'est le chapitre 4, mais c'est d'aimer. Il est nouveau parce que c'est pas aimé comme, ben, comme ça a été demandé jusque-là. Jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La référence était soi. Alors si on s'aime, ben, on va aimer son prochain. La référence a changé, c'est plus soi la référence, mais oh, c'est beaucoup plus haut. C'est vraiment très haut, c'est le Seigneur Jésus, comme il a aimé. Et on saura peut-être un peu mieux tout à l'heure de quel amour on a été aimé. Ça c'est la référence. Et dans le premier paragraphe, on trouve que l'amour est en relation avec quoi? Avec la lumière. Tiens, aussi, au début de cette lettre, il a été déclaré Dieu et lumière. Et vous avez au verset 10 de ce chapitre 2, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et juste avant, celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Donc c'est en rapport avec la lumière. Dieu est lumière, donc toujours en rapport avec qui est Dieu. Dans c'est une question de ténèbres ou de lumière, d'aimer. Ça, c'est déjà intéressant de réfléchir à ça. La deuxième fois où l'apôtre nous parle d'amour, c'est dans le chapitre 3, et vers le verset 10, 11, 12. Et au verset 11, par exemple, et c'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous nous aimions l'un l'autre, non comme Caïn était du méchant et tua son frère. Et c'est pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et là, nous voyons avec le verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Aimer, ça veut dire qu'on est dans la lumière. Aimer, ça veut dire qu'on a la vie. Sinon, c'est les ténèbres, sinon c'est la mort. Et puis maintenant, l'apôtre Jean va nous parler de l'amour, l'amour les uns pour les autres, et nous parler du fondement, de la source de cet amour. Et c'est donc un pas de plus dans ce que, justement, l'apôtre Jean veut nous apprendre. Qu'est la source de l'amour. Comment, d'où ça vient que je peux vraiment aimer mon frère, ma sœur?
Il est sans doute utile de remarquer, c'est très fort, mais l'apôtre Jean exprime les choses comme ceci à fond, c'est tout ou c'est rien. On l'a relevé souvent dans cet épître de Jean en particulier. Et ce que nous remarquons, c'est que s'il n'y a pas cet amour que Dieu verse dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné, comme on le lit dans l'épître aux Romains, eh bien, nous n'avons pas notre identité. Et si nous n'avons pas notre véritable identité en Christ, nous ne sommes pas des témoins. Les expressions sont fortes, par exemple, dès le chapitre 3, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, verset 14, parce que nous aimons les frères. Et puis au verset 16, par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous, et nous devons laisser nos vies pour les frères. Et puis à partir du verset 18, il est question de la réalisation pratique, et le verset 7 commence bien par « Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Tiens, j'entends ici directement Dieu qui me parle, qui parle à ma conscience et à mon cœur, et qui me dit, eh bien oui, si tu aimes, tu es né de Dieu, tu le connais, si tu n'aimes pas, ça n'est pas le cas. Est-ce que vous avez trouvé un jour dans la parole de Dieu quelque part, ça m'intéresserait si quelqu'un l'a trouvé, vous devez aimer certains des frères, des sœurs, il y en a d'autres que vous êtes dispensé d'aimer. Moi, je ne l'ai jamais trouvé. Alors, quand je lis ce verset 7 en particulier, qui commence la partie choisie pour la méditation, eh bien, je fais le tour de mes réactions, même si elles sont fugitives, à l'égard de frères et de sœurs, et j'entends Dieu me poser la question en me demandant si j'ai véritablement l'identité qui doit me caractériser. Je laisse simplement cette petite réflexion un moment sur le cœur et sur la conscience de chacun et de chacune.
Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, c'est donc un ordre, un commandement. Et là, c'est ce commandement nouveau, mais qui était celui, le commandement dès le commencement. Souvent, parmi nous, on parle de choses, garder les choses qui ont été enseignées dès le commencement, et il faut quand même réfléchir comment la parole de Dieu en parle. Ce qui a été enseigné dès le commencement par le Seigneur, c'est cela, nous aimer l'un l'autre. Et pourquoi cela est-il, nous avons ce commandement? Mais tout simplement parce que quiconque est né de Dieu et connaît Dieu, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime, pardon, est né de Dieu et connaît Dieu. Alors la source ou la source, l'origine de cet amour, c'est Dieu. Et quand il s'agit d'aimer, c'est quelqu'un qui a la vie de Dieu, il est né de Dieu. Ce n'est pas un incrédule qui peut aimer. Dans le monde, on parle d'aimer, mais ça n'a pas ce sens-là. Et on verra peut-être ce que l'amour tel que Dieu l'a vécu, l'a pratiqué, nous l'a montré, c'est un amour qui se donne et non pas un amour qui prend. Et quiconque est né de Dieu, donc, aime, et quiconque connaît Dieu, aime. Alors qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Donc, ici, on se connaît plus ou moins. On est plus ou moins proches les uns des autres. On a des relations plus ou moins suivies. Si on me demande « Est-ce que tu connais Jacques Méchain ?», je répondrai « Oui, je connais Jacques Méchain et ce n'est pas d'aujourd'hui. » Mais quelle est la personne ici qui connaît vraiment Jacques Méchain le plus? C'est Evelyne. Parce qu'ils sont unis l'un à l'autre. Ils sont un parce qu'ils sont mariés. Et c'est je donne ça pour essayer de comprendre. Connaître Dieu, c'est avoir une relation continuelle, vécue, profonde, constante, de tous les instants, de tous les moments, et c'est comme ça que l'on connaît l'amour de Dieu, et que l'on connaît Dieu. Ce n'est pas une vague théorie, ce n'est pas quelque chose de lointain, c'est une personne que l'on apprend à connaître, et dont la première chose que l'on peut savoir de lui, il m'aime. Frères et sœurs, quel que soit notre âge ici, est-ce que chacun de nous pouvons réaliser vraiment, oui, Dieu m'aime. Peut-être que si aujourd'hui, on a grandi un peu dans ce sentiment-là, on aura fait un pas de plus. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux de penser que Dieu nous aime d'une façon infinie. Et ce qui nous a cet amour, il nous l'a démontré, et on l'a dans ce passage, il nous l'a démontré, à ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alors l'homme était mort, nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Dieu a envoyé, parce qu'il nous aime, son Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie, afin que nous vivions par lui. Puis un peu plus loin, verset 10, en ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Nous étions coupables, nous étions pécheurs. Eh bien, Dieu a envoyé son Fils pour que la question de notre péché soit réglée, pour qu'il soit celui qui fasse l'expiation de nos péchés et que nos péchés soient effacés. Et puis, au verset 14, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. L'homme était absolument perdu et ce salut s'étend au monde entier et ce salut n'a pas de limite, il est le sauveur du monde. Il a envoyé le Fils pour que nous ayons la vie par lui. Il a envoyé le Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Il a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Mais comment Dieu a montré son amour? En donnant son Fils. L'amour de Dieu est un amour qui donne, qui se donne.
Oui, et Dieu n'a pas trouvé en nous les motifs pour nous aimer. Épître aux Éphésiens nous dit très clairement que c'est quand nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés que nous avons été aimés. Dans notre passage, c'est lui qui nous a aimés. Dieu a trouvé dans la nature profonde de son être et de ses sentiments d'une façon générale, dans l'excellence de ce qu'il est lui-même, il a trouvé les motifs pour faire agir cet amour et nous faire du bien. Alors, nous, comment on va pouvoir faire pour aimer tous nos frères, par exemple? Tu nous posais la question, Jacques. Je ne sais pas comment vous êtes, mais on ne va pas peut-être trouver dans chaque frère un motif pour l'aimer. Il y a des fois, c'est un peu difficile et ça nous prend un rebrousse-poil. Il faut reconnaître comme on est, quoi. On pourra trouver ces motifs d'aimer, comme Dieu, dans notre propre cœur. Pas notre cœur naturel, mais le cœur dans lequel Dieu verse son amour, dans le sens de Romains, l'amour de Dieu, Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu versé dans nos cœurs. La proximité avec Dieu nous fait comprendre comment lui a aimé, c'est ça connaître Dieu, et nous induit à l'amour. Un peu comme Paul disait dans les Galates, ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Connaissez-vous une vie de dévouement pour les autres, pour ses frères, forte comme celle de Paul? C'est quand même extraordinaire. Le ressort de l'amour était dans sa vie. Mais le ressort de l'amour, c'est parce qu'il savait que Christ l'avait aimé. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Alors que ces versets nous aident à nous approcher de Dieu, à comprendre la démarche de Dieu, puis à lui ressembler un peu, puisque c'est l'exhortation qui est ici.
Alors, je voudrais toucher deux points qui me semblent importants. J'allais dire deux points importants, je les vois comme tels. D'abord, quelque chose pour les jeunes. Je vois souvent des enfants, des adolescents, qui s'amusent avec d'autres, et puis, bon, peut-être parce que j'aime pas voir les gens souffrir, je remarque souvent un petit garçon, une petite fille, un adolescent, une adolescente qui souffre un petit peu de l'atmosphère. Quand je m'approche un peu et quand j'ai l'occasion de parler pour essayer de fouiller un peu les choses et pour aider, alors j'entends évidemment une liste de choses qui sont des preuves. Et puis la conclusion est souvent, mais je vois bien qu'il ne m'aime pas. Et oui, c'est ce qui a été exprimé par Jean-Luc, ce qui a été répété par Élie, c'est que nous sommes, nous, encore dans le corps, l'attente du passage, si on veut, et par conséquent, pour nous, cette manifestation d'amour est liée à des sentiments humains. Et il faut une manifestation, elle est aussi sur le plan spirituel, mais ce que nous avons touché du doigt ici, c'est une source. qui porte beaucoup plus loin, puisque dans le sermon sur la montagne, au début de l'évangile selon Matthieu, le Seigneur dit carrément « aimez vos ennemis ». On a lu un certain nombre de récits, en particulier dans les moments très difficiles dans la vie des hommes emprisonnés injustement, maltraités très justement, de vrais chrétiens, sauver leur bourreau justement, parce qu'ils ont manifesté un amour qui a touché le cœur du bourreau. C'est pas dans la manifestation de l'autre, c'est au-dessus de toute la méchanceté de l'autre. Alors, les enfants, s'il vous plaît, l'amour, pas dans les sentiments, dans les sensibilités. Essayez, avec votre foi, de remonter un peu plus loin, et les adolescents, un peu plus loin encore, en se disant « je dois aimer » sans chercher une manifestation quelconque, aimer d'une autre source. Maintenant, un autre niveau, si vous voulez bien. Ce que nous avons lu dans le verset 9, ce qui a été rappelé tout à l'heure par Jean-Luc, Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Alors ici, ça concerne tout le monde, quelle que soit la classe d'âge. Moi, je lis, j'essaie. Ce qui m'intéresse toujours, c'est d'essayer de recevoir le plus complètement possible ce que Dieu dit. Bon, je reçois entre autres ceci. La manifestation de l'amour de Dieu est une source de vie pour moi. Il m'a aimé, il a manifesté son amour, il a envoyé son Fils unique dans le monde. Bon, c'est directement la manifestation de l'amour telle que nous la voyons décrite dans d'autres portions, afin que nous vivions par lui. Dites-moi, tous ici, frères et sœurs, quelle que soit la classe d'âge, est-ce que la manifestation de notre amour produit une manifestation de vie chez l'autre? Ça, c'est un vrai sujet de méditation. Est-ce que ce que je manifeste moi de l'amour que Dieu verse dans mon cœur, dans mes comportements et dans mes échanges avec mes frères et sœurs, produit de la vie chez l'autre? Dites-moi, est-ce que quelquefois nos manifestations ne tendraient pas à éteindre la vie de l'autre? Ne trouvez pas que c'est là une pierre de touche de taille? Dieu m'aime et il le manifeste pour produire la vie. J'aime mes frères, mes sœurs, et justement, cherchons cette saveur. Dans notre manifestation d'amour, est-ce que nous découvrons chez l'autre, avec les yeux éclairés par Dieu lui-même, quelque chose qui est une preuve de vie, un petit plus qui manifeste la vie. Alors, l'amour a sa vraie source et sa bonne manifestation.
Il y a peut-être une difficulté à comprendre ce qu'est l'amour, il me semble. On pense amour-sentiment. Quand le Seigneur Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, il nous dit pas tu vas prendre ton ennemi, l'embrasser, le serrer dans tes bras et lui dire je t'aime. Mais il nous dit tu vas chercher le bien de ton ennemi. Tu vas, au lieu de chercher la vengeance dans un sens, tu vas chercher le bien. Alors ça c'est par rapport à l'ennemi. Et par rapport entre frères et sœurs, la manifestation de l'amour, c'est chercher le bien de l'autre. Et bien sûr, il y aura aussi des sentiments qui vont se faire. Mais dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, vous savez, cette chaîne qui nous est présentée, on avait étudié ça, il me semble, une fois à Tonnins, il est dit « joindre votre foi à la vertu » ainsi de suite, et à la fin, « et joindre l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour ». Donc, dans ce sens-là, l'amour est comme quelque chose qui est supérieur, ou je ne sais pas si c'est supérieur, mais qui est différent de l'affection fraternelle. Il est pas illogique quand même. On a souvent des sympathies plus fortes pour l'un comme pour l'autre, c'est normal. Mais on a le devoir devant Dieu de chercher le bien de l'un et de l'autre, de la même manière. Pas privilégier l'un par rapport à l'autre, mais chercher le bien. Et au passage, tout à l'heure, Élie, tu as parlé de aimer les frères. Moi, je trouve que c'est très facile d'aimer les frères, en général. C'est absolument facile. La théorie, c'est très facile. Mais nous aimer l'un l'autre, au singulier, ça devient plus difficile. Et c'est un peu l'enseignement du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, que vous aimiez l'un l'autre, au singulier. Comme je vous ai aimé. Alors, essayons de réfléchir un peu comment le Seigneur Jésus a aimé les disciples. Lisons les évangiles. Les disciples aimaient le Seigneur, mais combien de fois le Seigneur a été déçu par eux? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Dans Marc, à un moment donné, il leur pose une série de questions, mais vous n'avez pas encore compris. Et combien de déceptions, et pourtant le Seigneur les a aimés sans compter. Et il les a aimés jusqu'à l'achèvement, nous dit Jean 13, et il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est se donner. Il s'est donné lui-même pour nous. Et au passage, on a cité tout à l'heure, dans notre épître au chapitre 3, « Enfants n'aimant pas » de verset 18, par ceci, verset 16, « Nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. » Je sais, j'ai la mesure de l'amour dans le sacrifice du Seigneur Jésus pour moi. Et nous devons laisser nos vies pour nos frères. Alors là, on est là devant des choses sublimes, on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais la suite, on l'a. Hein. Donne de ce que tu as à celui qui en a besoin. Le verset 17, ce n'est pas des choses extraordinaires et inaccessibles. C'est faire chercher le bien là où c'est possible, en tendant la main, d'une façon simple, jour après jour, pas après pas. Et c'est là quelque chose d'absolument concret, pas toujours facile, mais facile à comprendre en tout cas.
Bon, c'est juste une réflexion au passage. Laisser un peu de son confort ou de ce qui plaît à titre personnel pour donner de ses ressources, de son temps, de son énergie pour le bénéfice des autres.
Ce qui est rassurant dans l'amour, cet amour dont il est en train de nous parler pour mon frère et ma sœur. Le problème, c'est qu'on voudrait se faire aimer, donc on aimerait entrer dans les critères qui va faire que je vais pouvoir être aimé de mon frère ou de ma sœur. Ça pourra tenir un moment, mais pas longtemps. Pour que ça marche, ça marche, c'est pas dans ce sens. Pourquoi il dit qu'on peut aimer ses ennemis? Parce que l'amour, là, qui vient de Dieu, ne dépend pas de la personne à aimer, mais du fait que j'ai en moi cette énergie d'amour qui vient de l'Esprit de Dieu. L'amour est versé dans mon cœur par l'Esprit de Dieu. Donc, sinon, c'est l'amour comme tout le monde peut aimer. Aujourd'hui, vous avez des gens qui manifestent de l'amour, qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui sont prêts à tout donner pour les gens qui sont malheureux. Mais ce n'est pas ça l'amour dont il nous est question, dont il nous est parlé. Un amour qui n'aime pas en fonction des personnes, mais en fonction de lui-même, de soi-même. Et on comprend que là, on n'est plus du tout dans le domaine humain, on est dans un domaine divin. Je raconte juste une petite histoire que j'ai lue, qui n'est pas tout à fait à proprement parler de l'amour pour ses frères. Et je vous lis cette petite histoire. Une chrétienne qui trouve une pauvre femme en guenille qui était là dans la rue et qui faisait la manche. Et alors, s'approche et lui dit, « Venez, venez, venez à l'église. Et puis, là peut-être, vous allez pouvoir connaître un peu de chaleur, un peu d'amour. Elle refuse. Alors insiste, elle essaye de la rassurer, lui dit, mais nous voulons vous aider, nous voulons vous parler de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ. Ne bouge pas. Et tout à coup, cette chrétienne, plusieurs jours plus tard, peut-être justement mue par l'Esprit de Dieu, s'approche d'elle, l'embrasse, la serre dans ses bras. Et immédiatement, cette femme se lève, se laisse conduire comme un enfant et découvre peu de temps après le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Vous me parliez de l'amour de Dieu, mais un jour, vous m'avez montré ce qu'est l'amour de Dieu. Et c'est ce qui m'a donné envie d'être sauvé et de changer.
À parler du fait qu'on a, le désir d'être aimé. Et on essaye de faire ce qu'il faut pour être aimé, c'est toi. Et peut-être que parfois, nous faisons la même chose par rapport à Dieu. On fait des efforts pour être présentable devant Dieu de telle sorte qu'il puisse nous aimer. Et on s'épuise parce que les critères, nous les fabriquons dans notre tête ou on les impose par d'autres moyens autour de nous, mais c'est faux. Dieu nous a aimés alors que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. C'est ça. On le lit dans Romains 5, on l'a vu dans Éphésiens 2, et ça ne doit pas être une théorie, cela, c'est un fait. De telle sorte que l'amour de Dieu, Philippe l'a dit déjà, l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que je suis, mais il dépend de Dieu. Et je suis accepté de Dieu comme je suis, pas plus, ni moins. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, qu'on accepte. Plus loin, on verra, il y a un verset, nous avons cru l'amour de Dieu. Si d'une certaine manière, j'essaye de faire des efforts pour que je sois dans un état suffisant pour que Dieu m'aime plus, c'est que je n'ai pas cru ce qu'était l'amour de Dieu. Je ne l'ai peut-être pas compris, je ne l'ai pas cru. Alors on va me dire, mais attendez, arrête un peu, dans Jean 14, il y a un passage qui dit ceci, c'est le Seigneur Jésus, il dit, Jean 14, verset 23, verset 21, on peut commencer, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Puis un peu plus loin, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alors tu vois bien que pour être aimé de Dieu, il faut commencer par garder la parole de Dieu. Et puis, voilà, on a une récompense. Alors, imaginez qu'on soit dans une pièce absolument fermée, pas une fenêtre, et à l'extérieur, il y a le soleil. Il fait beau. Je ne sais pas qu'il y a le soleil. On est dans le noir. Alors, mettons, il y a la lumière. Pour que je sache qu'on est dans le soleil, il faut que je sorte, que j'aille me mettre à l'extérieur sous le soleil. Comment je découvre l'amour de Dieu ? Je découvre l'amour de Dieu par la parole de Dieu. Quand je découvre l'amour de Dieu par la parole de Dieu et que je réponds à cet amour et que je garde la parole de Dieu, je désire la mettre en pratique, je viens me mettre dans la chaleur de cet amour. Et puis ma relation avec Dieu grandit parce que je m'approche de lui et je me rapproche de la chaleur du soleil et je découvre et je vis ma perception de l'amour de Dieu grandit. Je sais qu'il m'aime Un peu comme quand on sort de la pièce qui est dans le noir et on va dehors, il y a le soleil et là je sais que le soleil brille. Avant je le savais en théorie, parce qu'on me l'avait expliqué, mais quand je suis dehors au soleil, je sais ce que c'est. Et quand je lis la parole de Dieu et que je découvre l'amour de Dieu et que il y a de l'harmonie dans ma relation avec mon Père et moi, alors, parce que la parole de Dieu m'enseigne et parce que je la vis, alors cet amour-là est vécu. Mon Père l'aimera, je sais qu'il m'aime. Et c'est quelque chose, et cet amour est réellement vécu. Et un peu dans notre passage, c'est ça qu'il faut apprendre. L'amour que nous allons pouvoir donner aux autres a sa source dans la réalisation de l'amour que Dieu, dont Dieu nous aime. Ce n'est pas de l'altruisme construit à partir de la générosité d'un être humain. Non, c'est la source, elle est vraiment en Dieu. Je voudrais souligner juste une chose encore, alors c'est peut-être un peu en dehors du sujet. Il est dit que Dieu envoya son Fils unique dans le monde. Et un peu plus loin, il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Il est écrit, Dieu envoya. Ça veut dire que celui qui a été envoyé existait avant d'arriver. Quand le Seigneur Jésus est né sur la terre, il est né comme fils de l'homme, comme un homme parfait, il y a eu sa naissance. Mais il était envoyé de Dieu, ça veut dire qu'il était fils éternel du Père de tout temps. Le Fils unique de Dieu, le Fils éternel du Père, a été envoyé sur la terre. Il n'est pas apparu à un moment donné, n'existant pas avant. Dieu a envoyé son Fils unique. Et nous avons là un passage qui nous montre quelque chose de l'existence éternelle du Fils unique de Dieu. Quand l'un d'entre nous est né, il n'existait pas avant. Mais quand le Seigneur Jésus est né sur la terre, il n'existait pas comme un homme avant. Mais il existait en tant que Fils unique de Dieu, celui qui a été envoyé par le Père.
Insister sur un fait. Quand on au verset 9 à la fin, il dit afin que nous vivions par lui ou à travers lui. Autrement dit, la vie divine, cette vie éternelle dont il est question dans toute cette lettre, c'est Jésus-Christ qui vient habiter dans le croyant. Et le but, c'est que ce Jésus-Christ vive à travers moi. Et ça veut dire que quand je vis, c'est comme si le Seigneur Jésus vit à travers, donc ce qu'il a été sur la terre va se voir, va se concrétiser dans ma vie. Ce qu'il a fait ici, en particulier, il a fait propitiation pour mes péchés, ce qui amène un prix payé, ça amène au pardon. Donc vous allez dire, mais aimer, on parle d'amour là depuis tout à l'heure, mais concrètement, aimer. On a dit prendre soin, oui c'est vrai. Mais vous ne croyez pas qu'ici, il y a justement une question de pardon. Et une des manifestations de l'amour aujourd'hui, les uns envers les autres, c'est le pardon. Se pardonner les uns aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets de plainte, hein, des sujets de difficultés entre nous, des choses non pardonnées? On pourrait dire, mais moi je ne peux pas pardonner. Vous saviez ce qu'il m'a fait. Ben là, justement, on est tout à fait dans le sujet. Si on dit ça, c'est qu'on est en dehors de l'amour de Dieu. C'est l'amour humain. Effectivement, s'il m'a fait tout ça, ben humainement, je ne peux pas pardonner. La seule chose que je veux, c'est réparation. Donc un jugement sur ses faits. Mais là, on est complètement dans un autre domaine. On est dans le domaine divin. Et si nous sommes enfants de Dieu, et nous sommes enfants de Dieu, alors nous avons, non pas un sentiment à avoir là, mais un devoir, une décision à prendre. Aujourd'hui, ce sujet nous a été proposé par les amis de Clairac. Ça veut dire que si aujourd'hui, quelqu'un dans cette salle a un sujet qui n'est pas réglé avec son frère, il ne peut pas quitter la salle comme quand il est arrivé. D'ailleurs, il a pris beaucoup de risques en venant. Donc il s'agit aujourd'hui de dire, je suis un enfant de Dieu ou non. Si je suis un enfant de Dieu, ce n'est pas la question de dire je suis un enfant de Dieu, c'est que prouver cela. Nous avons le devoir de le prouver, c'est un témoignage à rendre dans ce monde. Si deux frères ici, ou deux sœurs, ou inverse, ont un différend à régler, eh bien la parole de Dieu nous dit, vous avez le devoir de le faire. Est-ce que vous avez le pouvoir? Oui, parce que l'amour vient de Dieu. Et cet amour est versé dans mon cœur. Donc aujourd'hui, avec la vie divine, la vie nouvelle, la nouvelle vie, la vie éternelle qui est en moi, j'ai la capacité, avec l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, de pardonner. Alors, il y a peut-être des histoires d'héritage, il peut y avoir des histoires de paroles qu'on s'est dit, qui font qu'on est en froid depuis peut-être des années. Et c'est un privilège qu'on ait ce sujet cet après-midi, parce que le Seigneur nous dit, eh bien, ce que tu n'arrivais pas à faire jusqu'à maintenant, eh bien, tu découvres que tu peux le faire, parce que tu as tous les moyens en toi. Tu as Christ en toi, l'Esprit de Dieu en toi, Dieu lui-même en toi, pour pouvoir vivre ce que Jésus a fait, c'est-à-dire de te pardonner de tes péchés. Il a payé le prix. Pardonner, ça veut dire aussi payer, ça veut dire perdre. Eh bien, c'est cette capacité qu'il y a. Et je suis convaincu que si on accepte d'être autre caractère, de preuve que nous sommes enfants de Dieu, obéissant à la parole de Dieu, eh bien, dès ce soir, il y aura des choses qui seront pardonnées entre frères. Et vous verrez, ça ira tellement mieux dans les assemblées.
Peut-être lire dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. Hein. Éphésiens 4. Hein. Verset 32. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Ça, c'est tout à fait la confirmation de ce que nous venons d'entendre. Le pardon, c'est la mesure du pardon, c'est le pardon de Dieu pour nous. L'énergie pour le faire, c'est imiter notre Père. Vous êtes des enfants de Dieu, ressemblez à votre Père. Et marchez dans l'amour, l'exemple qui nous est donné, comme aussi Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Il y a quelques années, il y a une personne dans notre quartier qui s'est convertie. Et cette personne avait de son passé un contentieux terrible avec son père. Elle avait le sentiment d'avoir été rejetée, abandonnée, et c'était vrai dans un sens. Et depuis des années et des années, elle n'avait plus de relation avec ses parents et avec son père. Et un jour, voilà que ses parents qui vieillissaient ont téléphoné, elle était absente, et il tombe sur son mari et il dit, voilà, on voudrait vous voir. Et le mari a dit, mais bien sûr, ça faisait peut-être 25 ou 30 ans qu'il ne s'était pas vu. Et il dit, bien sûr, mais vous venez quand vous, c'était un mardi, et ils arrivaient le jeudi. Et cette sœur, quand tout d'un coup elle téléphone à Geneviève, excusez, c'est un peu bizarre, et elle lui dit, voilà, tu sais pas ce qui m'arrive, alors qu'est-ce qui t'arrive? Un deuil? Qu'est-ce qu'il y a? Ton mari? Non, ça va très bien. Tes enfants? Non, ça va. Mais quoi, mon père? Quoi, ton père? Eh bien, il a téléphoné tout à l'heure et Raymond a dit, ben venez jeudi. Mais je ne peux pas recevoir mon père. Tu ne sais pas tout mon passé, tu vois pas tout ça. Ce n'est pas possible. Je hais mon père. Alors, elle dit, mais tu sais ce qu'il y a à faire? Oui, je sais, mais je ne peux pas. Alors, elles se sont retrouvées pour se mettre à genoux et pour prier. Puis après une première prière, la sœur n'avait rien dit encore. Puis un silence. Et tout d'un coup, elle s'adresse à Dieu. Puis elle raconte tout. Tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Tu sais où j'en suis. Tu sais que je ne peux pas. Tu sais ce qu'il y a. Tu sais ça. Et puis elle lui raconte tout. Et puis elle pleure. Et ça dure. On aurait dit des vagues qui sortaient, une digue qui craque. Et puis tout d'un coup elle s'arrête. Et elle dit, mais c'est fini. Mais je n'ai plus ce sentiment. C'est Dieu qui avait agi dans son cœur. Mais je vous promets, c'est une réalité. Et le lendemain, le papa est arrivé. Et le surlendemain, en venant de la réunion de prière, elle nous dit, vous savez, j'ai pu dire à mon papa, petit, mon papa chéri. Et ce n'était pas, c'était Dieu qui a promis cela. Alors, attention, il y a eu des rechutes. Hein. Il y a eu des difficultés. C'est pas si facile, parce qu'il y a ce que nous sommes. Et puis, il y a la chair en nous. Il y a des résistances. Et puis, c'est humiliant de revenir en arrière. C'est humiliant de renoncer à ce que l'on croit être ses droits. C'est quelque chose de difficile. Mais est-ce que c'était pas difficile pour Dieu? Est-ce que c'était pas difficile pour Dieu de nous pardonner? C'était tellement difficile qu'il a fallu qu'il donne son Fils. Il a fallu que le Seigneur Jésus vienne sur la terre, qu'il meure sur la croix, qu'il souffre, qu'il connaisse les 3 heures de l'abandon de Dieu. C'était difficile pour Dieu. Parce que Dieu est lumière. C'était difficile pour lui. Et il l'a fait parce que Dieu est amour. Alors que le Seigneur nous donne de nous rappeler cela. Je crois que dans beaucoup d'éléments de nos vies, se souvenir de l'amour de Dieu pour moi, le prix payé pour moi, si je me souviens de ça, et souvent on va l'oublier ça dans les conflits, dans les choses difficiles, si je me souviens de cet amour de Dieu, c'est certainement le point d'appui pour aller plus loin.
L'histoire que Jean-Luc vient de nous raconter, là, ça nous fait penser un petit peu à l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était donc ce juif, pharisien qui persécutait l'assemblée et puis qui ne se rendait pas compte qu'en persécutant l'assemblée, il persécutait le Seigneur Jésus. Et c'est sur le chemin de Damas donc qu'il a eu cette révélation. Et comme Jean-Luc vient de le citer, il dit dans Éphésiens 4, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Et lui, il a été pardonné. Il a été pardonné, il le dit à plusieurs moments quand il témoigne devant les grands de ce monde, qu'il peut dire par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il se détermine aussi dans la première aux Corinthiens comme le premier des pécheurs, mais il a conscience de l'amour de Dieu. Dieu qui ne lui a pas fait ce qu'il aurait mérité. Il lui a réservé un service que nul d'entre nous n'aura. Il peut le dire à Ananias, cet homme est un vase d'élection. Il n'y a que la grâce de Dieu qui a pu toucher son cœur comme cela. Et ce que Jean-Luc vient de nous raconter là au sujet de cette femme qui, une fois après avoir prié, a été touchée par la grâce de Dieu et a pu pardonner à son papa.
Alors tu as dit, Jean-Luc, tout à l'heure dans ton histoire, il y a eu des rechutes parce que, évidemment, on comprend que Père était ce qu'il était, puis il y a toujours des choses qui nous accompagnent. Quand on est allé trop loin dans certaines manifestations, c'est des faits difficilement de choses qui suivent. Et on ne peut pas faire qu'elle n'ait pas été. Bon, puis la fille était aussi ce qui la concernait, mais surtout, je voudrais ajouter quelque chose qu'on trouve dans le chapitre 5 de la première épître de Pierre. Et on a besoin de l'entendre, ça, c'est tout à fait dans notre sujet. Il y avait quelqu'un qui était là, rôdant, et qui disait, oui, tu as dit, c'est fini, tu t'es senti libéré d'un seul coup, mais dis-moi, tu peux oublier le passé? Souviens-toi de ça. Et hop, quelqu'un qui par derrière et par dessous, réanime, réinvestit, ne faut pas l'écouter, celui-ci. Il faut lui résister. C'est écrit dans l'épître de Jacques. Dites-moi, est-ce que de temps en temps, on ne le laisse pas parler? Et puis, je voudrais lire une chaîne qui correspond tout à fait à ce que tu as dit, Jean-Luc, qui est utile, qui correspond à ce que... ce qui a été rappelé dans l'épître aux Éphésiens, je le lis dans l'épître aux Colossiens, pour réaliser que peut-être si nous voulons avoir véritablement accès à l'amour dans sa source, dans sa pureté, dans sa force, il y a peut-être un petit itinéraire à suivre et des choses à éliminer, et si nous ne commençons pas par là, l'amour ne trouve pas sa mesure. Je lis dans le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens, au verset 12, « Revêtez-vous, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde. » On ne fait pas peser sur l'autre ce qui serait légitime de faire peser sur lui. Premier maillon. De bonté, pas de rancune, mais... quelque chose, au contraire, qui attire, ce qui attire dans un homme, livre des Proverbes, qui nous parle du Seigneur Jésus lui-même, c'est sa bonté. Puis, d'humilité. On ne se place pas au-dessus de l'autre pour le juger en disant, moi j'y vois clair, je sais ce qui te concerne, et voilà ce qui te concerne. Non, on se fait petit pour l'aider comme le Seigneur est descendu au-dessous du plus petit, pour pouvoir s'occuper aussi de celui-là. Puis de douceur, on n'use pas de brutalité, c'est tout doux, agréable, ça fait du bien, ça ne mâche pas. Puis de longanimité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est entretenu, répété, manifesté, renouvelé, avec persévérance. Et puisque nous avons dit, vous supportant l'un l'autre, vous pardonnant les uns aux autres, si l'un... un sujet de plainte contre un autre, et voilà la mesure, on l'a dit, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même, et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Bien, chacune peut-être faire un tour ici, peut-être noter dans sa mémoire, éventuellement sur un calepin, qu'il y a ici une chaîne qu'il faudrait peut-être lire de temps en temps quand il y a des difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter. Puis, autre point, dans les versets 9 à 10, donc, de la portion que nous méditons dans le chapitre 4 de la première épître de Jean, nous avons donc trouvé Dieu envoyer son Fils afin que nous vivions par lui, puis nous avons trouvé la manifestation de l'amour, il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bon, voilà, source, canal de vie, que nous vivions par lui. Philippe a bon escient en présenté ce canal de vie. Et puis, pour être la propitiation pour nos péchés, dites-moi, est-ce que pour réparer les choses, nous ne cherchons pas à le faire avec nos conceptions? Moi, je lis ici, Christ, la vraie propitiation. Est-ce qu'on ne compliquerait pas les choses en essayant de présenter autre chose? Voilà, ce qui est pleinement efficace. Christ comme source, comme canal et comme prix présenté. Peut-être, dans les difficultés, faudrait-il penser à présenter cette source qui étanche tout, qui pète tout, qui efface véritablement tout. Voilà, l'amour de Dieu dans sa vraie mesure.
Et dit, il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Quand il est question de la propitiation, par rapport à l'œuvre du Seigneur Jésus, c'est un des aspects de son œuvre qui peut-être nous aider à comprendre comment Dieu nous pardonne. On a au chapitre 2, il est question du Seigneur Jésus, au verset 2, lui est la propitiation pour nos péchés, nous les croyants, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Quand on voit les fêtes à l'Éternel et quand on voit en particulier la manière dont se passe le grand jour des propitiations dans Lévitique 16, vous vous rappelez, il y a deux boucs qui sont là, un premier qui est sacrifié et un deuxième qui reste et qui attend pendant que le premier est sacrifié. Alors le premier bouc sacrifié, son sang est amené à l'intérieur du lieu très saint dans le tabernacle. Et en particulier, le sang est mis devant le tabernacle et sur le propitiatoire de l'arche. Vous rappelez l'arche, cette caisse en bois qui était couverte par un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Et tout cela étant recouvert d'or, et c'est le lieu où on se rencontrait avec Dieu, et cela nous parle en particulier du Seigneur Jésus. Dans les images de l'Ancien Testament, l'arche, le propitiatoire sont là pour nous parler du Seigneur Jésus. Et puis ça nous parle aussi, le propitiatoire, du trône de Dieu, de là où est Dieu. Et le sang de la victime était amené devant l'arche, et puis elle était versée sur le propitiatoire. Sur ce propitiatoire, sur ce couvercle, en or, il y avait de chaque côté deux anges, deux chérubins. Les chérubins, c'est ces anges qui étaient à l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher Adam de revenir dans le jardin et qui étaient là pour exercer le jugement de Dieu. Alors ces deux anges, ils sont au-dessus du propitiatoire et ils regardent le propitiatoire, ils regardent le couvercle. Ce couvercle nous parle du Seigneur Jésus. Et sur ce propitiatoire, il y a le sang de la victime qui est apporté. Les deux anges voient le sang qui est apporté dans la présence de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, est satisfait par l'œuvre, par l'offrande du premier sacrifice, le péché. À ce moment-là, ce qui était nécessaire quant au péché du peuple a été fait pour Dieu. Et dans la présence de Dieu, le sang est amené, les anges le voient, le jugement de Dieu, le pardon de Dieu est prêt. Et puis il y avait une deuxième victime, un deuxième bouc. Ce bouc, on s'approchait, on mettait les mains dessus, on confessait les péchés, et ce bouc était chargé des péchés du peuple, par la confession des péchés du peuple sur ce bouc, pour être amené très loin dans le désert, très loin de telle sorte que jamais il ne revenait vers le camp, et les péchés confessés sur ce bouc était amené dans le désert très loin, impossible de les rappeler, de les faire revenir. Alors là, il y a une image. Dans un premier temps, le sang amené dans la présence de Dieu, c'est l'aspect de la présence, du sacrifice du Seigneur Jésus qui satisfait la justice de Dieu, et les effets de ce sacrifice peuvent s'étendre à tous ceux qui confessent leurs péchés. Et à ce moment-là, il y a un autre aspect de l'œuvre du Seigneur Jésus qui est présenté, auquel on peut penser, c'est quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix, à partir du moment quand il est mort sur la croix, son œuvre satisfait entièrement la justice de Dieu. Quand j'ai cru au Seigneur Jésus, que j'ai confessé mon péché, j'apprends qu'il est mort sur la croix à ma place, il a été mon substitut. Et l'efficacité de l'œuvre du Seigneur Jésus et le pardon de Dieu m'est acquis, parce que le Seigneur Jésus est mort sur la croix, mais aussi parce que j'ai accepté ce sacrifice et parce que j'ai confessé mes péchés. Alors, quand on a lu tout à l'heure dans Éphésiens de nous pardonner l'un l'autre, comme Dieu aussi en Christ nous a pardonné, comment il nous a pardonné ? Eh bien, il nous a pardonné en donnant son Fils. Et comment j'ai été bénéficiaire de ce pardon ? Eh bien, quand j'ai confessé mes péchés, que j'ai réalisé mon état de péché, que j'ai accepté l'œuvre de Christ. Alors, quant à nos relations les uns avec les autres, il peut y avoir un conflit, il peut y avoir entre l'un et l'autre des causes de combat, quelqu'un a fait du tort à un autre. Et souvent, c'est jamais, ça va dans tous les sens. Alors, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, vous rappelez, il y a la parabole que le Seigneur Jésus raconte des deux esclaves. L'esclave à qui le maître avait remis une grande dette, une dette qui représente, je crois, 60 millions d'années de travail. Et puis il y avait un autre esclave qui devait à peu près, je ne me rappelle plus le nombre, si on fait les calculs, mais il devait une somme importante, mais très relative, très minime par rapport à ce que son maître lui avait rendu. Et l'esclave refuse de pardonner, il réclame à l'autre ce qu'il lui doit. Et le Seigneur Jésus parle de pardonner de tout son cœur à son frère, dans la conclusion. Alors, je n'ai pas le droit, quand quelqu'un m'a fait du tort, d'entretenir dans mon cœur un refus du pardon. Il m'a fait du tort, je suis désolé, je suis dans mon droit, donc je refuse et je garde cette amertume sur mon corps et sur mon cœur. Et à ce moment-là, je suis prisonnier de cette amertume, je ne peux plus jouir vraiment de la paix de Dieu, je ne peux plus jouir vraiment du pardon de Dieu pour moi. J'ai oublié la valeur du pardon de Dieu, la grandeur du pardon de Dieu pour moi. Ça, c'est un aspect. Dans Luc, au chapitre 17, il est dit, si ton frère vient vers toi. En fait, au passage, j'ai oublié cette parabole du Seigneur Jésus. C'est Pierre qui pose la question, est-ce que si mon frère vient et que... est-ce que je vais le pardonner jusqu'à 7 fois? Et le Seigneur a dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ça ne veut pas dire, achète-toi un carnet et commence par compter. Là, je suis à 30 et j'ai encore une marge de manœuvre. Mais quand ça va être... quand je vais arriver au bout, là, je vais pouvoir me venger. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur dit, tu dois être prêt à pardonner toujours. Et il me dit, dans ton cœur, tu dois toujours agir pour être prêt à pardonner, sans entretenir l'amertume dans ton cœur. Luc 17... si ton frère vient à toi et te dit « Pardonne-moi », 7 fois de jour il vienne, tu lui pardonneras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'entretenir dans mon cœur l'amertume et refuser le pardon. Par contre, pour que ce pardon soit effectif et que la communion soit rétablie, il faut que la chose soit réglée entre les deux qui sont en conflit. S'il vient à toi et te dit « Pardonne-moi », tu lui pardonneras. Le Seigneur ne nous enseigne jamais. S'il n'est pas venu à toi pour te dire pardonne-moi, alors tu as tous les droits pour garder ton amertume dans ton cœur. Il ne te dit pas ça. Comment Dieu a-t-il fait? Est-ce que Dieu a de l'amertume contre nous? Est-ce qu'il avait de l'amertume contre les hommes? Est-ce qu'il a de l'amertume contre les hommes qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus? Non, il les aime. Il est prêt à les recevoir. Parce que l'œuvre du Seigneur Jésus a été accomplie. Parce que tout est réglé. Mais pour que le médicament ait son efficacité pour celui qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus, il faut qu'il croie au Seigneur Jésus, il faut qu'il prenne le médicament, il faut qu'il confesse ses péchés, et à ce moment-là, le pardon de Dieu qui est là, qui est libre, qui est prêt dans son cœur, à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus, va se déverser sur lui et il va jouir de cela. Ça, c'est un... donc, il me semble que c'était peut-être quelque chose, sans peut-être s'étendre plus sur ce point, qu'il fallait qu'on mette au point peut-être, oui, pardonner, mais la parole de Dieu nous montre qu'il faut aussi régler les choses pour que dans cette rencontre qui va se faire, dans le souvenir du pardon de Dieu pour mes péchés, qu'il y ait un vrai pardon, quelque chose qui soit réellement réglé dans la lumière de Dieu et dans l'amour.